venus si nombreux en ce samedi matin donc pour cette nouvelle séance du séminaire sur Foucault et le politique. Et nous avons la chance aujourd'hui donc de, non pas de recevoir, mais d'entendre donc Christian Laval, que vous connaissez tous ici, pour ses nombreux travaux sur la question de la démocratie, sur la théorie sociologique, sur le marxisme. Je pense notamment à ce Marx, prénom Karl, publié avec Pierre Dardot l'an dernier, et dont le prochain ouvrage sort le 28 mars, donc, qui s'intitule « Commun ». Et donc nous le recevons aujourd'hui pour qu'il nous parle de la question des rapports entre Foucault, sécurité et surveillance. Donc voilà.
D'accord.
Ben, directement.
Merci. Merci Stéphane. Je te demanderai de me surveiller.
Je ferai le gong.
D'accord. Bon. Je vous remercie d'être venu, de vous être déplacé. J'ajouterai un petit peu à la présentation qui a été faite, que j'ai commencé en fait mes travaux sur, disons, académiques sur Bentham, et que je crois qu'une des premières fois où j'ai parlé de Bentham, c'était un séminaire organisé par Christian Lazéry et Dominique Régnier, ici présent, il y a déjà fort longtemps. Et donc le sujet de la surveillance, et en particulier la question du panopticon chez Bentham, est une question que j'ai poursuivi, en tout cas, qui m'a toujours préoccupé. Alors, pour aujourd'hui, le propos que je vais tenir sur Foucault et la surveillance, donc part d'un motif assez actuel et tourne autour d'une question assez simple. Au fond, je me demande dans quelle mesure les analyses de Foucault d'il y a plusieurs décennies, dans quelle mesure ces analyses restent opératoires pour comprendre aujourd'hui l'ampleur de la surveillance qui a été révélée en mai et juin dernier par Edward Snowden, et en quoi ces analyses peuvent nous aider à penser aujourd'hui les moyens, les effets, les capacités stratégiques des États et des pouvoirs économiques lorsqu'ils stockent et traitent les informations de masse sur les populations et sur les individus. Alors, évidemment, la question de la surveillance apparaît évidemment tout à fait centrale aujourd'hui pour caractériser le champ des actions de l'État, des actions politiques, mais aussi des luttes, la nature des conflits géopolitiques, les pratiques économiques, les pratiques de concurrence, de rivalité, de domination entre puissances économiques et entre États. Avec l'affaire Snowden, je pense que la surveillance est incontestablement redevenue un axe essentiel de la réflexion politique, en particulier sur ce que j'appelle les capacités stratégiques des États. Évidemment, à commencer par la configuration de la domination mondiale autour des États-Unis avec les Five Eyes, les alliés les plus proches des États-Unis, et les relations asymétriques que ces États exercent sur leurs subordonnés, sur les puissances qui leur sont subordonnées. Plus largement, l'extension et la diversification des techniques de surveillance, en particulier sur Internet, redonne, me semble-t-il, une très grande actualité à cette interrogation, dans la mesure où les technologies qui concerne la circulation, le stockage et le traitement des informations, en se combinant entre elles, ont donné des moyens absolument considérables de surveillance aux États comme aux acteurs économiques. Au fond, les tendances que l'on observe, et c'est tout à fait une évidence, témoignent d'une généralisation de cette surveillance, une puissance accrue des techniques, une pénétration de plus en plus fine, donc dans les communications, dans les réseaux, dans la vie privée, dans les relations entre les individus. Et donc, par là même, cela semble donner raison à Foucault, qui, dès le début des années 70, soutenait que nous étions entrés, depuis assez longtemps, depuis le XVIIIe siècle, dans une ère de surveillance permanente et généralisée. Et que, avec cette surveillance, il y avait là un moyen principal, moyen essentiel de contrôle des individus par l'anticipation de leur conduite, du fait même de l'accumulation des connaissances que l'on pouvait prendre sur eux. Alors, on connaît bien le propos de Foucault, que je rappelle juste pour mémoire, selon lequel l'invention benthamienne du panopticon est la clé qui nous permet de comprendre notre société. Société caractérisée par le panoptisme. Je cite « Le panoptique, dit-il, est l'utopie d'une société et d'un type de pouvoir qui est au fond la société que nous connaissons actuellement, utopie qui s'est effectivement réalisée. » Cette expression de panoptique et de panoptisme, Foucault l'a en quelque sorte, sinon créée, du moins répandue, et bien au-delà de la sphère académique, en faisant donc de l'invention de Bentham en 1787 ce qu'il a appelé, dans Surveiller et punir, le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale. Un mécanisme, on y reviendra, qui induit chez celui qui est surveillé un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir par intériorisation du regard qui est porté sur lui. Un mécanisme donc qui sert à l'État et qui est bien sûr poussé au plus loin par justement l'État moderne, mais qui est aussi destiné, dira-t-il dans Surveiller et punir toujours, à se diffuser dans le corps social, à y devenir une fonction généralisée. Il entend par panoptisme et par mécanisme panoptique une machine qui n'est pas seulement répressive, qui n'est pas seulement nivelante ou écrasante, c'est d'abord et avant tout pour lui une machine productive. Le panoptisme développe en quelque sorte une surproductivité du pouvoir qui peut venir se greffer sur toutes les institutions. La surveillance, au fond, est pour lui une force productive, ou plus exactement une force amplificatrice, intensificatrice, multiplicatrice, qui joue sur des forces déjà existantes. Ce thème de la surveillance est donc, que je viens de rappeler, est donc assez connu, je dirais presque rebattu, et l'on peut se demander si ça vaut vraiment la peine d'en rajouter un commentaire ou un questionnement. Un thème qui a presque vieilli dans les études foucauldiennes. J'entends par là que les foucauldiens aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus à des phases plus récentes en quelque sorte de travail de Foucault, c'est-à-dire sur la biopolitique, sur la gouvernementalité, voire sur l'éthique de soi, plutôt que sur la surveillance, comme si c'était un thème finalement qui était en quelque sorte enfoui dans l'histoire même de la pensée de Foucault. Les travaux sur la société de surveillance ont plutôt lieu ailleurs que dans la mouvance foucauldienne. Ça n'aurait, je pense, pas déplu du tout à Foucault. D'ailleurs, c'est plutôt dans les groupes militants que ce thème revient. Il y a pourtant une sorte d'académisation du thème de la surveillance dans certains pays. Je pense par exemple aux pays anglo-saxons, qui sont bien placés pour être première loge, si je puis dire, du panoptisme, puisqu'il y a en Angleterre comme aux États-Unis sorte de champ académique des surveillance studies qui s'est développé, des revues qui sont développées, et je dirais même que l'impact critique du thème de la surveillance est assez émoussé dans la mesure où des organes officiels, des commissions officielles ont repris ce thème de la société de surveillance, comme si au fond c'était une sorte d'évidence que nous étions dans la société de la surveillance, comme si nous étions dans la société de l'information en quelque sorte. Et je dois dire que dans un certain nombre de rapports, on a l'impression que les deux se chevauchent, et donc que la portée critique de cette thématique est en effort diminuée. Alors vaut-il la peine de revenir sur la question de la société de surveillance? Il me semble qu'il y a au moins trois raisons qui peuvent le justifier. La première raison, c'est que les analyses que l'on fait souvent maintenant du phénomène de la surveillance me semblent avoir perdu un peu en rigueur, en profondeur. Elles se sont en quelque sorte elles-mêmes banalisées, et on a l'impression que Foucault n'apparaît plus que comme un disciple tardif d'Orwell, et que c'est surtout la figure de Big Brother finalement qui l'emporte dans les analyses. Au fond, il y a assez peu de liens qui sont faits, de liens, de branchements qui sont faits entre les travaux de Foucault et les découvertes ou les révélations depuis une dizaine d'années. Il y a aussi en même temps une confusion intellectuelle, me semble-t-il, qui est assez grave, parce qu'elle n'est pas seulement qu'intellectuelle, elle est politique. Lorsqu'on confond procédures des répressions, des formes de répression dans les pays totalitaires et dictatoriaux. Je pense évidemment à la Chine et par exemple à sa muraille électronique et l'espionnage de la NSA. C'est-à-dire qu'au fond, on a tendance à confondre la surveillance telle que la pratique, telle qu'elle est pratiquée dans les pays capitalistes, et les formes de répression totalitaire qui s'exercent dans un certain nombre de pays dits communistes. Et pas seulement d'ailleurs. Deuxième raison, elle est politique, elle est très directement politique, c'est je crois qu'il faut se demander dans quelle mesure les réactions, les résistances, les contre-conduites sont à la hauteur ou à la mesure de l'ampleur du phénomène qui a été récemment révélé, mais bon, on verra qu'on en savait déjà long avant. Ça sera sans doute un objet de discussion, mais enfin pour moi, je trouve curieux d'observer ce que j'ai tendance à appeler un haut degré d'acceptation et de docilité avec lesquels on accepte, on tolère des surveillances et des contrôles sur tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on transmet. Et je pense évidemment à la population, je pense également au gouvernement et en particulier aux autorités françaises qui semblent avoir finalement... qui semblent trouver assez normal finalement que même leur communication interne soit espionnée comme elles le sont. Je veux dire, rien n'est, il n'y a finalement que la présidente brésilienne, hein, Dilma Rousseff, qui a, je pense, une réaction politique à la hauteur de l'entreprise d'espionnage des autorités politiques. Donc un problème politique, c'est celui, plus généralement, des modes de réaction ou de résistance qu'on pourrait avoir par rapport à ces entreprises. La troisième raison, elle est plus académique, en tout cas elle est plus éditoriale, c'est la parution en décembre dernier du cours de Foucault de 72-73 sur la société punitive, qui me semble être en mesure, de nature, à renouveler, disons, la perception, la conception qu'on avait des analyses de Foucault, en particulier quant au rapport entre la surveillance, puisqu'il s'agit là vraiment, au-delà du titre, d'une généalogie de la surveillance, hein, 3 ans avant la parution de Surveiller et Punir, une vraie généalogie de la surveillance articulée à la question des luttes sociales, à la question de ce qu'il appelle la guerre civile, c'est-à-dire au fond aux dimensions stratégiques du pouvoir. Une dimension qui apparaîtra, me semble-t-il, moins dans les travaux suivants. Hein. Alors voilà, donc trois raisons qui font que je crois utile de revenir sur cette question de la surveillance. Dans mon exposé, je commencerai dans une première partie par des remarques générales. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur le diagnostic central que fait Foucault quand il qualifie nos sociétés de sociétés de surveillance, avec, semble-t-il, toute une série de problèmes que cela induit. Dans une troisième partie, je montrerai que cette qualification ne va pas seule, justement, que la surveillance n'est pas isolable de considérations stratégiques que je viens d'évoquer. Et enfin, dans une quatrième partie, s'il me reste un peu de temps, je me demanderai précisément si les analyses de Foucault peuvent être encore aujourd'hui des points d'appui pour un renouvellement des approches de la surveillance électronique telle qu'elle est aujourd'hui révélée. Alors, première partie, quelques remarques de méthode. Première remarque, l'étude de la surveillance et des prisons, telle qu'elle apparaît donc dans les cours du début des années 70, hein, dans le cours de 71-72, théorie et institutions pénales, dans le cours de 72-73, la société punitive, donc participe d'un projet généalogique d'ensemble, qui est, semble-t-il, très bien résumé dans donc la présentation, dans le résumé qu'il fait de son cours de 71-72. Quand Foucault présente son programme, il dit ainsi qu'il s'agit de suivre la formation de certains types de savoirs à partir des matrices juridico-politiques qui leur ont donné naissance et qui leur servent de support. Donc certains types de savoirs à partir de matrices juridico-politiques. Ce qu'il veut étudier, ce sont des formes singulières de ce qu'il va appeler, ce qu'il appelle à ce moment-là, ce qu'il continuera d'appeler assez longtemps, des formes singulières du pouvoir savoir. L'hypothèse fondamentale au départ de sa recherche est qu'aucun savoir ne peut se former sans appareillage, sans des dispositifs d'enregistrement, d'accumulation, d'archivage, de traitement de savoir, d'informations sur les individus. Opération de collecte et de traitement, donc, qui constitue en tant que tel un pouvoir à étudier comme tel. Et de l'autre côté, aucun pouvoir ne peut s'exercer sans l'extraction, l'appropriation, la distribution ou la conservation de savoir. Et évidemment, quand il dit ça en 71-72, il faut bien voir, comme l'a rappelé François Boulan ici même, dans son exposé sur Foucault et les prisons, qu'on est à une époque de lutte et d'engagement de Foucault dans le groupe d'information sur les prisons fondé en février 71 et plus généralement dans une période de très forte intensité des luttes sociales et politiques. Donc un projet d'ensemble qui est lié à des pratiques politiques. Deuxième remarque, elle porte sur une difficulté que j'ai, c'est le fait que la surveillance est définie par Foucault comme la caractéristique de la société dans laquelle nous sommes. Mais cette caractérisation se trouve dans des cours, celui de la société punitive surtout, dans des entretiens et des conférences qui ont lieu, qui sont produits avant surveiller et punir. Je dis bien avant surveiller et punir. Lequel livre de 75, malgré son titre, commence à déplacer l'accent, à élargir les perspectives et en même temps à se concentrer sur ce qu'il appellera les disciplines. Et à partir de surveiller et punir, la caractérisation qu'il donne de la société n'est plus tant la société panoptique ou la société de surveillance que la société disciplinaire. Or, l'une des difficultés, évidemment, est que la surveillance est une dimension, apparaîtra comme une dimension, sera retenue comme une dimension des disciplines et des sociétés disciplinaires, mais sans être la seule. La société disciplinaire ou les disciplines se caractériseront par des phénomènes de hiérarchisation, de classement, de quadrillage, d'examen, d'exercice, d'emploi du temps, de répartition isolante des masses, avec évidemment toujours comme perspective, et surtout à partir de surveiller et punir, avec toujours comme dimension, la dimension de la norme et de la normalisation, qui sont présentées comme au principe, comme la raison même des institutions disciplinaires, comme l'objet et le résultat de l'action disciplinaire. Le problème est donc de savoir quelle place occupe exactement la surveillance dans le programme disciplinaire à partir de surveiller et punir. Un programme qui déborde très largement la question de la surveillance. Mais évidemment, la question est complexe, puisque avec le panopticon, Foucault nous a donné à penser que dans l'établissement benthamien, nous avions affaire à une sorte de condensé, de composition synthétique de tous les aspects de la discipline. Au fond, on peut avoir le sentiment que le programme disciplinaire trouve son accomplissement et son mais dans un dispositif architectural structuré par le principe de l'inspection. Troisième remarque, Foucault est un chercheur, comme on sait, très mobile, un vrai chercheur d'une certaine façon, qui ne cesse, pour reprendre une formule qu'il utilisera plus tard, qui ne cesse de se déprendre de lui-même. Et au fond, on peut se demander, question de lecteur bien sûr, que devient la thématique de la surveillance lorsqu'il sera de moins en moins question de discipline et de plus en plus question de contrôle, de biopolitique, de gouvernementalité, de souci de soi. Alors Jean Terrel, ici même, dans la première séance du séminaire, a soutenu l'idée, la thèse de l'unité et de la continuité des politiques de Foucault. Et j'ai rappelé tout à l'heure l'unité du projet, effectivement, autour du pouvoir-savoir, mais plus généralement autour de cette histoire de la vérité, en tant qu'elle est toujours liée à des stratégies de pouvoir. Alors les concepts de Foucault, les points d'appui qu'il prend dans les archives sont tous indexés, en effet, à une conception des relations de pouvoir qui prévaut, me semble-t-il, à toutes les phases de son travail, et je crois qu'on peut donner à Jean Terrel, raison à Jean Terrel sur ce point. On sait que, bon, je n'insisterai pas là-dessus, que Foucault a élaboré une conception que l'on dit souvent stratégique, conflictuelle, productive du savoir, qu'il a, comme je l'ai dit aussi, toujours le souci de nouer pouvoir et savoir, en même temps que de toujours envisager le pouvoir comme induisant, inductif d'un changement dans la conduite, voire dans la subjectivité des sujets. La surveillance donc renvoie incontestablement à une conception générale du pouvoir qui fonctionne par extraction et production de savoir sur des individus objectivés, hein, lesquels sont en même temps par la même produits comme sujet. Les dispositifs de surveillance et d'observation donc participent pleinement à cette conception générale du pouvoir. Mais Foucault est en même temps, voilà, je pose le problème tel que je l'ai rencontré, il est en même temps discontinuiste. C'est-à-dire qu'il ne cesse d'être attentif aux inflexions des modes de pouvoir, à leurs variations, aux ruptures qu'il peut les voir dans les formes dénoncées, dans les figures de vérité, mais aussi dans les techniques qu'il utilise. Il y a des économies historiques singulières du pouvoir qu'il cherche à isoler à chaque fois et sans nécessairement les raccorder entre eux, les brancher entre eux. Donc je crois qu'il faudrait, c'est presque un programme, je crois, ou en tout cas un projet de recherche, il faudrait regarder de près quelle place, quelle fonction occupe à chaque fois la surveillance, si on peut l'isoler, dans les différentes phases ou dans les différents types de pouvoir qu'il analyse après. Il y a néanmoins, c'est sans ma quatrième remarque, quelque chose qui est assez, me semble-t-il, continu chez Foucault, un thème qui deviendra, me semble-t-il, de plus en plus important, et qu'il découvre, me semble-t-il, qu'il fait apparaître en tout cas avec le Panopticon, c'est ce qu'on pourrait appeler l'action à distance du pouvoir. Le pouvoir moderne, en fait, n'est pas le pouvoir de la violence directe, physique. Il ne passe même plus par le commandement ou l'ordre ou la directive. En fait, le pouvoir tel qu'il se dégage du Panopticon suppose plutôt une spontanéité, voire une liberté assez paradoxale de celui qui est assujetti. Un mécanisme qui fonctionne par intériorisation de la norme, du simple fait, assez simple, assez élémentaire, d'être placé dans un champ, dans un milieu, d'être placé plus exactement dans un champ de visibilité, ce qui peut s'élargir justement, peut se généraliser à l'idée selon laquelle pour gouverner un individu, il faut le mettre dans un milieu qui soit construit, modelé, afin de l'orienter, de le canaliser ou de l'inciter à agir de telle ou telle façon. Au fond, avec la surveillance, je crois, ce que découvre Foucault, c'est quelque chose qui prendra de l'ampleur après, c'est le moyen de gouvernement à distance, très exactement ce que Bentham appelle l'influence. Une influence qui laisse toute spontanéité, qui laisse place à la spontanéité de celui qui agit. Je passe sur des citations assez nombreuses qui vont dans ce sens-là. Pour terminer, je crois qu'il faudrait remarquer également à quel point la thématique de la surveillance ou de la société panoptique qui apparaît encore une fois avant la thématisation de la discipline, sans ensuite disparaître complètement, participe chez Foucault à, je dirais, un thème, je dirais en musique, une ligne théorique continue et qui concerne le regard. Car en effet, ce qui est tout à fait frappant chez Foucault, c'est que si le thème de la surveillance et la qualification de la société comme société de surveillance apparaît, c'est dans une certaine continuité avec ce qu'il a pu dire du regard clinique, dans l'essence de la clinique, ce qu'il pourra dire de l'observation scientifique, ce qu'il dira de l'enquête statistique, ce qu'il développera sous le mode de l'enquête bureaucratique, de l'examen bureaucratique. C'est-à-dire, au fond, l'idée selon laquelle le regard, disons les structures politiques du regard, sont tout à fait essentielles dans le pouvoir savoir. Au fond, ce qui me semble toujours en jeu chez Foucault, en tout cas, dès l'introduction de naissance de la clinique qui peut apparaître d'une certaine façon comme une sorte de programme général ou de mode d'emploi, c'est le fait que ce qui est en jeu, c'est le pouvoir d'un regard au nom d'un savoir et pour extraire par le regard un certain savoir. Et de d'une certaine façon, la surveillance de type politique ou social est toujours chez lui en connexion avec l'objectivation qui est propre à la psychiatrie, qui est propre à la médecine et qui sera le propre des sciences humaines. Autrement dit, naissance de la clinique, les mots et les choses, surveiller, punir, les cours sur la surveillance me semblent en effet former une véritable unité autour de cette question des modes de pouvoir. Et je crois qu'il y a des remarques, disons, souvent incidentes ou latérales qu'on pourrait trouver dans Surveiller et punir qui le montrent. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout dissocier le Foucault politique, c'est ce que je voulais vous dire. On ne doit pas dissocier le Foucault politique du Foucault épistémique, si je puis dire, ou épistémologue. Je crois qu'il y a une profonde unité et que, justement, la question du pouvoir savoir et du voir sont essentielles. Bon, la deuxième partie, vous voyez, je prends beaucoup trop de temps, là, je vais aller plus vite. La deuxième partie, c'est une interrogation sur le diagnostic central de Foucault, selon lequel nous serions dans une civilisation de la surveillance. Je crois que c'est cette attention à la dimension du regard, dans le pouvoir et le savoir, qui donc conduit Foucault à ce diagnostic qui porte sur la société du XVIIIe siècle. Il insiste sur le fait que nous ne sommes plus dans des sociétés du spectacle, mais dans des sociétés de surveillance. Nous avons affaire à un renversement ou à une inversion du spectacle en surveillance. Je pense que c'est la proposition ou l'énoncé sans doute le plus important de Foucault, ou en tout cas le plus profond si je puis dire, c'est-à-dire qui pose vraiment un cadre d'ensemble à l'analyse. Nous avons fini avec un certain type de pouvoir qui fonctionnait à la parade, si je puis dire, qui fonctionnait au rite, qui fonctionnait à la démonstration des insignes de la majesté, de l'impérium, etc. Nous sommes entrés dans une phase où le pouvoir s'exerce très différemment, en quelque sorte, comme il le dira, enfouissement bureaucratique, opacité de ces mécanismes. Alors, il prend appui évidemment sur Bentham, mais surtout sur un Julius qui, en 1827, dans ses leçons sur la prison, donc a formulé, d'après Foucault, formulé au mieux cette rupture dans les modes de pouvoir, puisque c'est Julius, c'est un professeur de droit criminel allemand, qui le premier a formulé cette idée que nous passons, donc nous abandonnons le spectacle pour entrer dans la surveillance. L'âge du spectacle, donc, n'est pas du tout comme chez Debord, par exemple, une caractérisation du capitalisme développé. Je veux dire que Foucault prend exactement le contre-pied de Guy Debord et de sa société du spectacle. Je crois qu'il joue même, d'ailleurs, dans certaines de ses formules, sans le mentionner directement, dans cette opposition-là. Il joue avec cette opposition-là. Le spectacle, c'est l'instrument pré-capitaliste, c'est l'instrument du pouvoir d'avant le capitalisme, c'est une caractéristique donc du théâtre grec, il le dit comme tel. Nous quittons une société qui fonctionnait comme un théâtre grec, nous quittons l'impérium monarchique, la majesté pontificale, etc., qui jouait sur le pouvoir des signes, des symboles, des rites. En gros, nous abandonnons le théâtre des images du pouvoir. L'âge capitaliste, c'est celui de la surveillance généralisée. À l'appui de cette démonstration, évidemment, toute une série d'illustrations dans Surveiller et Punir, l'opposition bien connue entre le châtiment en place publique de Damien et, d'autre part, le mode l'emploi du temps d'une institution disciplinaire. Cette façon dont Foucault a de nous dire comment il découvre ça à travers l'hôpital, c'est une vieille affaire. Je veux dire que c'est l'hôpital pour lui qui a été le premier terrain sur lequel il a travaillé pour faire apparaître justement cette importance de la surveillance. Et puis c'est au cours de ses travaux sur la prison et en connectant hôpital, prison et regard clinique qu'il peut amener cette caractérisation centrale. Bon, donc, dès 71, 72, 73, donc, pour Foucault, la caractérisation de la société, c'est d'abord et avant tout le panoptisme. Bon. Bentham apparaît dans ces années-là comme le grand technologue de la société capitaliste. Mais quelques remarques s'imposent, je crois, à propos de ce diagnostic. Je serai rapide. Le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'insisterai pas trop, c'est évidemment la question du rapport surveillance-discipline. La surveillance, évidemment, excède de beaucoup, déborde les institutions disciplinaires. Mais la surveillance, en même temps, s'articule assez mal avec l'anatomopolitique sur les corps de Foucault. Il y a là des choses qu'une lecture un peu précise permet de montrer, c'est-à-dire que tout ce que peut montrer la surveillance, c'est une action de l'esprit sur l'esprit. Foucault reprend la remarque, l'énoncé de Bentham. C'est Bentham qui dit ça, que ce qui importe, c'est de jouer de l'esprit sur l'esprit. Mais en même temps, vous voyez, Foucault développe dans ses Surveiller et Punir toute une série de considérations sur le dressage des corps. Bon. Il y a là toute une série de problèmes qu'il faudrait aborder si on avait du temps. Deuxième problème, Foucault fait une lecture très partielle de Bentham et rate énormément de choses sur Bentham. Il oublie totalement ce qui aurait pu l'intéresser, c'est-à-dire toute la théorie des fictions de Bentham, c'est-à-dire en gros l'idée que l'action invisible, secrète et à distance du pouvoir, c'est d'abord et avant tout un pouvoir des mots. C'est le pouvoir des mots, c'est toute la théorie des fictions de Bentham que Lacan valorisera très grandement dans tous ses séminaires, enfin depuis la fin des années 50 jusqu'à la fin. Donc toute une partie du Bentham, je dirais symbolique, du pouvoir symbolique, disparaît. Mais il y a plus grave et plus gênant chez Foucault, c'est le fait qu'il ne voit absolument pas le lien que Bentham fait entre le panoptisme de la prison et, c'est-à-dire du gouvernement, comme mode de gouvernement, et la démocratie panoptique, c'est-à-dire le fait que Bentham est l'un des très grands théoriciens de la démocratie moderne. Et là, c'est quand même très gênant, parce que ça lui aurait donné en réalité beaucoup d'armes à Foucault pour penser le contre-pouvoir, c'est-à-dire pour penser la fonction de la contre-enquête. Une contre-enquête dans laquelle, d'ailleurs, des processus de contre-enquête dans lesquels il était lui-même complètement engagé avec le JIT, avec Libération, etc. Le projet Libération, c'est un projet benthamien. Disons, sur le volet Bentham démocrate, c'est-à-dire qui donne une très très grande importance à la transparence, à l'opinion, à la libre expression, à la production de journaux, d'instruments de contrôle, de qui ? De contrôle des gouvernants. Car pour Bentham, le panoptisme doit s'entendre également comme un contrôle permanent, continu, serré, fin des gouvernants. Au point même que, dans son code constitutionnel, Bentham inventera un autre modèle architectural qui est celui des ministères, de la structure du pouvoir officiel, qui sera organisé comme la prison panoptique, mais au lieu d'avoir au centre une tour avec un inspecteur, c'est-à-dire bon, figurant le gouvernant, regardant les sujets, au milieu se tiendront les ministres, les fonctionnaires, etc. Et dans les loges qui trouvent place dans l'anneau circulaire, se trouveront le peuple, se trouveront tout, quiconque voudra observer, surveiller les gouvernants. Alors donc c'est quand même un petit peu gênant, si vous voulez, de voir que Foucault se débarrasse complètement de quelque chose qui aurait pu, je crois, lui servir et peut-être caractériser de façon plus complète, c'est-à-dire plus conflictuelle, plus polémique, plus contradictoire, cette idée de société panoptique, qui est notre société, on peut bien l'admettre, mais qui, évidemment, est aussi le panoptisme stratégique des journalistes, des lanceurs d'alerte, des militants qui dévoilent, qui cassent l'opacité des pouvoirs, qui luttent contre la corruption, etc. Hein, bon. Troisième remarque, je crois que ce qui est important et qui est discutable, enfin discutable au sens où il faut le discuter, c'est que si Foucault prend le contre-pied d'une analyse de pouvoir qu'on pourrait appeler spectaculaire ou spectaculariste, et je n'entends pas seulement là la théorie situationniste de Debord, eh bien ce contre-pied-là pose évidemment beaucoup de problèmes, parce que d'une part, en son temps, il faut bien voir, il faut bien considérer qu'il prenait le contre-pied de toute une série de travaux qui, au contraire, insistaient beaucoup sur les effets symboliques du pouvoir. Il prend à contre-pied toute une partie de la sémiologie qu'on pourrait appeler presque politique de l'époque, de la linguistique, de la psychanalyse, qui visait à donner à l'époque au pouvoir idéologique, je dirais, une trame ou un soubassement théorique autrement plus consistant que ce que le vieux marxisme pouvait proposer avec sa théorie du reflet. Et donc, Foucault, par exemple, est en discordance avec beaucoup des choses qui avaient été faites et dites, je pense aux mythologies de Barthes, par exemple, aux analyses de Baudrillard, mais à beaucoup d'autres choses. Ou à la théorie de Legendre sur la théâtralisation du pouvoir. Hein. Alors, problème donc qu'on ne va pas résoudre là, mais qu'on peut commencer à discuter, c'est finalement, est-ce que cette insistance sur la surveillance au détriment du spectacle ne laisse pas de côté, finalement, des modes d'action du pouvoir qui continuent parfaitement d'agir, au fond comme si la vieille souveraineté, les vieux trucs de la majesté, si je puis dire, avec des textes classiques comme celui de Pascal, bien sûr, là-dessus, avait complètement disparu. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu désarmé, est-ce qu'on ne se désarme pas à choisir unilatéralement la voie de la surveillance ? Bon, voilà, je crois qu'il y a toute une série de problèmes qu'il faudrait discuter. Troisième partie maintenant, sur la surveillance. La surveillance ne joue pas seule. La surveillance chez Foucault, participe d'une stratégie, elle participe plus exactement d'une guerre civile ou d'une guerre sociale. Le travail de Foucault, on le sait, est généalogique, surtout à partir du début des années 70. Il s'agit de cerner, comme on le sait, l'émergence d'un problème, d'un fait, d'un discours ou d'une institution dans son rapport de force. Là, je cite son texte classique qui s'appelle Nietzsche, la généalogie et l'histoire. Et donc, saisir donc une émergence dans un rapport de force selon un jeu de force qui le rend à la fois pensable et possible. Pour Foucault, donc, la surveillance participe bien d'une stratégie et d'un rapport de force. Elle relève d'une lutte dans laquelle des ennemis se surveillent. Enfin, là, vous voyez, il y a aussi un petit problème sur les ennemis se surveillent. Cette stratégie suppose donc un savoir de la surveillance, un art pour faire fonctionner cette surveillance comme la production d'un savoir. C'est important de le rappeler parce que l'une des manières de mutiler l'analyse de Foucault est précisément de détacher la surveillance de son contexte, en quelque sorte, son contexte d'émergence, d'en faire au fond un élément à part, autosuffisant, qui serait détaché des protagonistes d'une lutte, détaché d'une conjoncture de combat. La surveillance n'est pas une forme politique en soi. Elle participe d'une guerre, mais de quelle guerre ? Dans la société punitive, plus que, je crois, dans n'importe quel autre texte de Foucault, à ma connaissance, il apparaît, me semble-t-il, assez clairement que la surveillance est liée à la constitution d'un ennemi social, c'est l'expression qu'il utilise, qui prendra des figures différentes, en particulier celle du criminel. Mais cet ennemi social, c'est aussi le plébéien séditieux. Et c'est, de façon plus ample, plus générale, le prolétaire. C'est le prolétaire qui est constitué en ennemi social dans et par la surveillance. C'est cet ennemi social, ce prolétaire, sur lesquels s'exercent donc les dispositifs de surveillance. Et ce prolétaire menaçant, au fond, a pour trait, si je puis dire, trait négatif, son hostilité, son potentiel de danger, de dangerosité, par rapport à la production dans ses formes capitalistes modernes. L'objet de la surveillance, dit Foucault, je cite sur la société punitive, c'est toute personne qui se trouve hostile ou contraire à la règle de maximalisation de la production, comme il s'exprime. Donc, la stratégie bourgeoise consiste à, en érigeant le criminel, justement, en figure d'ennemi, à tracer une ligne entre le plébéien séditieux et le prolétaire soumis, docile, utile. La surveillance, donc, dans ce cadre-là, participe à ce qu'il appelle une dimension du coercitif, la coercition, qui vise à transformer la force de travail en force productrice, condition de fonctionnement du système pénal dans notre société. Bon, ces passages, on pourrait en montrer d'autres, en citer d'autres, témoignent, me semble-t-il, mais là aussi vous pourrez discuter, d'une très grande proximité à ce moment-là de Foucault avec les recherches de certains historiens marxistes, et je pense en particulier aux travaux de Thompson. Il me semble que c'est très frappant même de retrouver quasiment des expressions semblables sur le temps, la gestion du temps, le contrôle par l'horloge, etc. Etc. Bon, pour résumer ce que je veux dire, c'est rarement dans l'œuvre de Foucault, on trouve des formules dans lesquelles la surveillance, ou de façon générale le pouvoir, est aussi précisément articulé à la question de la guerre civile à l'époque bourgeoise. Évidemment, la question de la guerre civile continuera. Il y a des cours fameux dans « Il faut défendre la société », dans « Sécurité, population et territoire », etc., où on retrouvera cette question de la guerre. Il ne l'a jamais abandonnée. Je crois que Christian, tu feras quelque chose sur le conflit et la guerre, donc je n'insiste pas. Mais je crois que dans l'émergence de la surveillance, la dimension donc de la guerre est très présente. Juste une petite phrase pour de la société punitive où il dit « L'exercice quotidien du pouvoir doit pouvoir être considéré comme une guerre civile. Exercer le pouvoir, c'est d'une certaine manière mener la guerre civile et tous ses instruments, ses tactiques qu'on peut repérer, ses alliances doivent être analysables toujours en termes de guerre civile. » Alors, je passe sur le détail de l'analyse. Elle est extrêmement riche. Au fond, la surveillance se déploie à un moment où la forme de la richesse change. Et Foucault fait grand cas du traité sur la police de Londres de Patrick Colquhoun, qui était le magistrat, qui était fondateur de la police londonienne, mais aussi un grand magistrat de l'époque, qui exprime, d'après Foucault, pour le mieux, l'idée selon laquelle la grande question de l'époque, c'est le fait que la richesse est désormais à portée de main des prolétaires qui la produisent, qui la font voyager, qui la transbordent d'un quai ou d'un hangar à un bateau, et que c'est cette forme de richesse nouvelle qui est le principe explicatif du déploiement des techniques de surveillance. Alors certes, là, l'analyse est plus complexe, puisque ce n'est pas directement cette considération stratégique qui fait naître la surveillance. Je passe sur les détails. C'est l'idée chez Foucault qui est tout à fait classique chez lui. C'est l'idée que des processus de surveillance, des dispositifs sont épars, sont dispersés, sont hétérogènes. Il cite par exemple les entrepreneurs de morale des Quakers à l'époque, ou les lettres de cachet en France, et qu'au fond il y a ensuite une coordination stratégique au fond de toutes ces entreprises de moralisation autour d'un objectif central qui est l'idée de contrôler et de discipliner le prolétaire. Hein. En tout cas, retenons de ça que ce qui est très frappant à la société punitive, c'est que l'ennemi social, c'est d'abord et avant tout le travailleur considéré comme un prédateur possible. Que la bourgeoisie ait constitué la force de travail, pour lui, est une évidence, mais ce qu'il ajoute, c'est que la bourgeoisie constitue le travailleur, le construit le travailleur, crée le travailleur à partir d'une considération de menace, hein, à partir de l'idée que pour extraire de la plus-value, il faut déjà empêcher la soustraction, la menace de soustraction de valeur que le prolétaire peut exercer à tout moment. C'est ce potentiel de dangerosité, au fond, qui doit être réduit par les techniques de surveillance. Bon. Alors, se pose évidemment un problème. Je terminerai là-dessus. C'est si cette surveillance se déploie à un moment très particulier, qui est celui de la naissance du capitalisme industriel, est-ce que, au fond, les analyses qu'il développe en 72-73 peuvent encore nous servir à quelque chose, dans la mesure où nous n'avons plus du tout affaire à un capitalisme, ou en tout cas où les tâches stratégiques du capitalisme ne sont pas réduites à la constitution du travailleur, comme ça pouvait être le cas à la fin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, quatrième partie, ce problème-là, la surveillance aujourd'hui, comment se présente-t-elle ? Les analyses donc de Foucault qui portent sur les conditions initiales et en même temps infrastructurelles de la société capitaliste peuvent-elles être reconduites dans une société comme la nôtre ? Marqué par un capitalisme financier, par des politiques néolibérales qui ont leur spécificité historique. juste une, pour rappeler ce que j'ai dit en, dans mes premières remarques de méthode, évidemment la question pour être posée complètement doit rappeler, doit aussi mobiliser le fait que Foucault a poursuivi ses analyses au-delà de cette première phase du capitalisme et que les concepts de biopolitique ou de gouvernementalité contiennent d'une certaine façon ou conservent la dimension de la surveillance voire de la discipline. Alors je crois qu'il y a en citant, je vais vous citer une phrase Foucault, des choses qui sont assez frappantes, qui résonnent de façon, je trouve, assez forte avec la situation dans, dans laquelle nous vivons. Foucault écrit, donc dans Surveiller et punir, ceci. Ce pouvoir panoptique doit se donner l'instrument d'une surveillance permanente, exhaustive, omniprésente, capable de tout rendre visible, mais à la condition de se rendre invisible. Elle doit être comme un regard sans visage qui transforme tout le corps social en un champ de perception. Des milliers d'yeux postés partout, des attentions mobiles et toujours en éveil, un long réseau hiérarchisé. Quand on lit cette phrase, on peut avoir le sentiment, évidemment, que Foucault est notre contemporain. Il est le contemporain de Snowden. Et pourtant, ce dont il parle, c'est du contrôle policier à Paris au milieu du XVIIIe siècle. Donc, il y a là quelque chose d'assez frappant, hein, d'assez étrange, c'est que des descriptions de ce genre semblent parfaitement décrire ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir si, en quelque sorte, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de la police. Si je peux parler de soleil de la police. Et c'est ce que je voudrais un peu examiner. Par quelques réflexions. Premièrement, je pense que toute une partie des procédés de surveillance qui se déploient aujourd'hui sont assez classiques, si je puis dire, c'est-à-dire continuent le travail que décrit Foucault de ce qu'il appelle le bouclage des classes dangereuses. C'est-à-dire dans ce gigantesque dispositif, en fait, aux multiples facettes de prévention ou d'anticipation des menaces sur la propriété, sur les biens, sur les personnes. Enfin, que beaucoup des choses qui nous paraissent très, très récentes, techniquement très récentes, s'inscrivent parfaitement dans, je dirais, une logique de longue durée. Je pense à la vidéosurveillance, je pense même à la biométrie, je pense aux drones de surveillance des banlieues, etc. Mais on peut également penser au fait que les cartes d'identité infalsifiables, la géolocalisation des détenus, des suspects, enfin tout cet appareillage policier qui est désormais disponible, donc vise toujours à contrôler les classes dangereuses. Donc, finalement, je pense qu'il y a en effet une très grande actualité à ce que Foucault peut décrire en 72-73. On peut même dire que on pourrait s'appuyer sur ces analyses en montrant que l'horloge, par exemple, la gestion du temps, les formes d'inspection panoptique, etc., ont beaucoup évolué. Je pense, par exemple, dans le monde du travail, aux formes de surveillance des salariés qui donc se sont affinées, précisées. Je disais récemment que la société Hitachi avait donc inventé un badge, un business microscope, comme on l'appelle, que les employés portent sur eux et qui les suit toute la journée et qui permet donc à l'employeur d'enregistrer tous les faits et gestes de l'employé durant son temps de travail, y compris tous ses déplacements, toute la répartition de son temps et toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, toutes les interactions de cet employé durant sa journée, évidemment aussi toutes ses connexions sur Internet et tous ses coups de téléphone, etc. Donc, par un tout petit badge, l'entreprise japonaise donc prétend que par ce tout petit badge, qu'elle peut espérer que avec ce dispositif, cela, je cite, aidera à la coopération des employés et conduira à améliorer l'ambiance dans l'entreprise. Donc on a quelque chose qui va tout à fait dans ce sens-là. Deuxième remarque, faut quand même noter que la surveillance des classes populaires sur lesquelles est centrée l'analyse de Foucault s'est prolongée, a été relayée par ce qu'il appellera une biopolitique, qui se traduit par une intrusion dans les comportements individuels, par une gestion calculatrice des régularités sociales. Cette biopolitique dépasse de très loin la seule visée de contrôle des classes populaires. Elle vise une moralisation, une normalisation de tout le monde, de toutes les classes, de tous les individus. Et elle n'est pas pensable sans le déploiement des surveillances administratives, des modes d'enregistrement des données personnelles, des établissements des données statistiques à grande échelle, qui ont en particulier été permises par l'État social et éducateur, sur lesquels Foucault ne s'arrêtera pas beaucoup. Il dira quelques petites... il y aura des entretiens avec la CFDT en particulier sur l'État social, sur l'État-providence, mais au fond, il y aurait là quand même quelque chose qui... mériterait une étude tout à fait particulière. Et ça nous permet également de remarquer que la surveillance ne se repère pas seulement sur le registre de l'exploitation de la force de travail. Je crois qu'il faudrait bien voir que la surveillance est plus benthamienne qu'on ne le croit, c'est-à-dire que Bentham était l'homme du bien-être, l'homme du bonheur pour tous, pas celui seulement de l'exploitation de la force de travail. Et que c'est au nom du bonheur et du bien-être de toute la population que les modes de surveillance se sont déployés à travers l'État-providence, dont on dit souvent que Bentham a été l'un des... J'ai pas le temps ici de développer ça, mais était sans doute l'un des premiers penseurs. Hein. Bon. Et je passe sur l'État éducateur, qui lui aussi est un État d'enregistrement des données et même de traçabilité des individus. Ce sur quoi l'éducation nationale, enfin en tout cas ceux qui critiquent l'éducation nationale, je crois, ne s'arrêtent pas suffisamment sur cet aspect-là. Troisièmement, la surveillance qui est analysée dans la société punitive et surveiller-punir est une surveillance qui reste quand même assez spécialisée, institutionnalisée, voire localisée. Surveillance policière, scolaire, médicale, psychiatrique. Bien que Foucault commence à concevoir sa généralisation, ses modes de généralisation, ses formes de déspécialisation, surtout dans surveiller et punir, quand il développera l'idée d'un essaimage des techniques de surveillance au-delà des institutions. Et il y a là quelque chose sur lequel il faudrait évidemment s'arrêter, c'est comment s'opère cette généralisation de la surveillance, cette mise en connexion des fichiers, sinon par certaines formes de structures de savoir, c'est-à-dire certains concepts qui permettent cette interopérabilité, pour reprendre le jargon technique, des différents fichiers administratifs ou des entreprises. C'est autour de certains de concepts généraux que peut s'opérer la généralisation de la surveillance, la globalisation de la surveillance. Déviance, handicap sociaux culturel, tout un discours psychologisant, médicalisant, un mode général de prise en charge des risques sociaux. Tout ceci permet justement le resserrement du maillage de la surveillance. Et donc on peut se demander aujourd'hui, si on cherche à voir quels sont aujourd'hui les modes de généralisation et de connexion, s'il n'y a pas donc de nouveaux savoirs qui encouragent, qui soutiennent ce genre de choses. Et je pense, pour ma part, enfin c'est un travail que nous avons entrepris à un certain nombre, que c'est autour du cerveau, c'est autour des neurosciences, qu'aujourd'hui s'opèrent, me semble-t-il, ces formes de connexion autour d'une forme de neuropolitique qui est en train de se mettre en place. Quatrième remarque, sur le pouvoir de surveillance aujourd'hui, et en utilisant les travaux ultérieurs de Foucault, je crois que dans les premiers travaux, on a l'impression que c'est l'œil policier, l'œil du pouvoir qui vient en quelque sorte s'appliquer sur toute la société, ramasser tous les événements les plus microscopiques et les concentrer dans des archives du pouvoir. C'est un peu l'image qu'il donne dans ses premiers écrits. Mais à partir des milieux des années 70, Foucault change d'orientation en insistant sur la participation des sujets à leur propre surveillance. Et je pense qu'avec la volonté de savoir, on penche en tout cas vers quelque chose de nouveau. Le pouvoir suppose une connivence, une participation de celui qui en est l'objet. Dire, parler, avouer, c'est offrir sur soi, c'est une prise sur soi, par l'exposition de ses petits secrets, par l'indiscrétion, par l'autosurveillance continue. C'est la manière du pouvoir moderne, beaucoup plus que la répression, et je dirais même peut-être plus que le dispositif policier lui-même. Au fond, ce que montre Foucault à ce moment-là, et en prenant le contre-pied, je crois qu'on avait un peu cité déjà, en prenant le contre-pied de toute une ambiance, c'est que le pouvoir n'a pas besoin de regarder par le trou de la serrure. Il a simplement à demander que la porte soit ouverte. Et ça marche. Et c'était ça la nouveauté de la volonté de savoir. C'est que les gens ouvrent leur porte. Ils se livrent au regard des autres. Et que la norme, justement, c'est l'ouverture sur le regard des autres. Et au fond, il me semble que cet aveu de soi, cette exposition de soi, n'a jamais atteint un stade aussi poussé qu'aujourd'hui, avec bien le fait que l'exploitation des données numériques telles qu'elles ont été révélées par Snowden avec le projet PRISM est rendue d'autant plus facile qu'il n'y a plus aucun effort à faire de la part de la police pour extraire des informations sur des individus puisqu'ils les livrent eux-mêmes, puisqu'ils les dévoilent spontanément sur une norme que j'appellerais volontiers la norme de l'estimité, c'est-à-dire finalement la norme de l'extériorisation permanente de leur profil. C'est-à-dire que sur Facebook, le bien nommé réseau, sur Facebook, précisément, le profil est constitué par les internautes eux-mêmes. Et donc, le pouvoir fonctionne toujours au champ de visibilité, mais il n'a même plus besoin de construire ce champ de visibilité, puisque finalement, ce champ de visibilité est nourri en permanence, construit par ceux qui s'y livrent, qui s'y mettent. Nous nous rendons le plus visible possible avec une norme qui est à interroger, qui est la norme du « nous n'avons rien à cacher ». Je crois qu'il y a là quelque chose qui est extrêmement important. C'est l'idée que dès qu'on interroge quelqu'un et qu'on lui demande pourquoi il met tout ça, il répond, tout le monde répond « nous n'avons rien à cacher ». Et je crois qu'il y a là quelque chose qui mérite un questionnement. Cinquième remarque sur la surveillance d'aujourd'hui, la nouveauté n'est pas tant le bouclage ou la séquestration, pour utiliser les termes de Foucault, mais sa nature. Les processus de surveillance donc jouent comme jamais à ciel ouvert, en milieu ouvert si on peut dire, grâce, je l'ai dit, à la géolocalisation, grâce à la production de toutes les traces électroniques que nous laissons. Ce bouclage de la population, je l'appellerais volontiers, en reprenant une expression de Bill Davidoff, un journaliste américain, est un bouclage algorithmique. Un bouclage ou une séquestration algorithmique, ça veut dire que ce sont les algorithmes de ces puissants ordinateurs, ces puissants logiciels qui permettent précisément le traitement des traces et des données que nous laissons et qui permettent, comme jamais, une connaissance assez fine et donc une anticipation de nos conduites. Au fond, les dispositifs du capitalisme contemporain ne se contentent plus de produire la classe docile et asservie, mais à identifier chaque profil individuel, à connaître chaque individu dans ses goûts, dans ses choix, et en produisant non seulement le travailleur, je l'ai dit avec la société Hitachi, le travailleur observé totalement, mais aussi le consommateur. Le consommateur dont on connaît par le data mining, dont on connaît parfaitement les choix, les goûts, et connaissant ses orientations, ce que l'on peut faire, ce que l'on croit pouvoir faire en tout cas, c'est d'anticiper son désir. C'est au fond de faire que les entreprises, mais aussi les gouvernements, enfin tous ceux qui disposent de ces outils-là, puissent connaître avant même la perception du désir, l'objet du désir, au fond, et permettre enfin de que l'offre, comme dirait Hollande, que l'offre commande que l'offre commande la demande, en fait, que l'offre soit créatrice de la demande. Prison algorithmique, donc, qui peut se construire de multiples manières, donc aussi bien par des entreprises privées que par des agences gouvernementales. Je n'insiste pas, c'est bien connu, bien que nous ne le sachions pas, d'une certaine façon, puisqu'il existe toute une série d'entreprises, il en existe une cinquantaine, par exemple, aux États-Unis, qui, exploitent les données et qui les reverse, les revendent aussi bien à des compagnies d'assurance qu'à des sociétés de transport aérien en particulier, mais qui peuvent les livrer aussi bien donc aux agences gouvernementales, et avec des effets très 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 précis. Par exemple, le fait que des gens aient pu se voir refuser la location d'un véhicule, la location d'une maison, et puis ne pas être recruté, etc., du fait même qu'ils avaient laissé toute une série d'informations par leur voyage, par leurs dépenses, etc., etc. Donc d'une certaine façon, l'accumulation et l'archivage des connaissances a pris désormais une ampleur absolument colossale, qui va beaucoup plus loin, infiniment plus loin que le fameux livret ouvrier inventé par Napoléon, et dont on fait encore, dans un certain nombre de textes que j'ai lus, le sommet de la monstruosité. Alors que désormais, ce livret ouvrier ne contenait que très très peu de choses par rapport à tout ce que on peut savoir de nous. Sixième remarque sur la surveillance aujourd'hui, je pense que là, les formes de gouvernement dans le travail passent aujourd'hui essentiellement, pas seulement par le petit badge d'Hitachi, mais par des mécanismes d'évaluation sur des bases quantitatives qui semblent justement relever non pas du tout de l'application d'une norme extérieure à laquelle il faut obéir, mais qui relève d'une comparabilité entre les résultats ou les scores des activités de chacun. La surveillance est partie prenante de situations de concurrence à l'intérieur du monde professionnel. Elle est co-surveillance. Elle s'opère en référence à des critères qui paraissent inhérents au champ d'activité spécifique, selon des normes qui paraissent objectives, directement tirées de la réalité elle-même. C'est à la fois un mécanisme ancien, c'est-à-dire bureaucratique ancien, et en même temps un phénomène nouveau, mais qui prend une ampleur assez considérable et qui demande une participation de tous. C'est la pratique du reporting, du rapport, qui réclame que chacun rapporte sur les autres et rapporte sur soi. Je pense que la surveillance aujourd'hui prend très largement la forme de l'évaluation quantitative et la forme du rapport. Hein. Rapport sur soi-même, avec l'injonction de se dire, de se définir sur une échelle, de se classer, de se mesurer, pour mieux se corriger en s'alignant sur la norme qui se dégage précisément de la production de ces rapports. Je pense que l'université, de ce point de vue-là, offre un champ à la fois d'application, de généralisation de ces techniques de subjectivation et de gouvernement par le rapport. Hein. Enfin, ceux qui y sont dedans savent de quoi je parle. Septièmement, la surveillance, je terminerai là-dessus, la surveillance par les États a trouvé évidemment les moyens électroniques qu'un Bentham n'aurait jamais pu rêver de disposer, c'est assez évident. Je crois que les révélations de Snowden, pour en donner une petite appréciation, témoignent bien sûr de l'ampleur de la surveillance, mais témoignent surtout d'un projet stratégique sur lequel les analyses de Foucault peuvent nous éclairer. Ce que nous apprend Snowden depuis le mois de mai dernier, c'est une ambition programmatique de la NSA et des agences des Five Eyes, des quatre autres agences anglo-saxonnes, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises et britanniques, sur ce projet, un projet programmatique, cette ambition programmatique, donc, qui est de collecter tout. De collecter exactement ce que Foucault appelait toute la poussière des événements. C'est assez frappant de voir à quel point Keith Alexander, l'ex-dirigeant de la NSA qui est sur le départ, est foucauldien. Il est foucauldien en ceci que son projet, lorsqu'il a pris les rênes 2004-2005 de la NSA, son projet, c'est précisément de tout prendre. D'après les données, enfin les informations données par Snowden, Keith Alexander, en 2008, posait la question suivante lorsqu'il exposait son programme, en posant la question « Pourquoi ne pourrions-nous pas collecter tous les signaux tout le temps ?» Et par signaux, on entend ici, dans le jargon, toutes les communications. Donc ça, l'ambition programmatique de la NSA et des Five Eyes, c'est de collecter toutes les communications tout le temps. Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Et l'idée qui a obsédé, qui obsède la NSA et qui se dit à travers une image, c'est l'idée qu'on a besoin de toute la botte de foin pour trouver l'aiguille. Vous voyez, chose assez curieuse. L'aiguille suppose de construire la botte de foin. Tout collecter. Mais tout ramasser, tout collecter, pour quoi faire ? Alors, une critique assez facile qui a été encore celle de Snowden lundi dernier dans son intervention à Austin est de dire qu'en fait, tout ça, ça coûte énormément d'argent et tout ça ne sert à rien malgré les prétentions de Keith Alexander d'avoir déjoué je ne sais quel nombre d'attentats. En réalité, il n'y a pas grand-chose derrière. Je pense que ça, c'est une critique qui passe à côté de ce qui est en jeu. Je crois que l'ambition programmatique est mieux rendue par certain Ira Hunt, qui est membre de la direction de la technique de la CIA, qui expliquait que, au fond, la ligne de conduite de la communauté du renseignement américaine, c'est non seulement de tout ramasser et de tout garder, mais surtout de tout garder, tout conserver, tout ramasser, parce que les agences de renseignement ont et auront de plus en plus les moyens de faire des calculs, je cite, sur toute l'information générée par tous les êtres humains. Il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie. Un membre de la direction technique de la CIA définit le but par l'idée que les moyens de calcul algorithmiques qu'il y aura et qui sont déjà présents et qui ils auront, ces agences auront, c'est le traitement de toute l'information générée par tous les êtres humains. Bon. Donc, l'essentiel serait plutôt dans cette capacité calculatoire computationnelle, donc qui permettrait évidemment d'assurer un avantage économique considérable à ce noyau de pays, informé à tout moment, à toute heure, en tout lieu de ce qui se passe. Donc il y a là une dimension d'ailleurs qui n'était pas du tout cachée depuis 1947, on n'a pas le temps de faire l'histoire, mais depuis la création du projet Echelon, qui était déjà un projet de surveillance générale, l'idée d'assurer une domination économique a toujours été présente. Mais il y a là évidemment quelque chose qui donnerait évidemment des moyens de contrôle par le biais d'Internet sur l'économie. Donc voilà un petit peu cette idée selon laquelle nous aurions affaire donc à un système de surveillance qui permettrait d'avoir des données, de récolter des données sur les 6 ou 7 milliards d'habitants, exactement de la même façon que la police parisienne au XVIIIe siècle avait l'ambition de connaître en détail chaque rue, chaque cour d'immeuble, chaque escalier, etc. Je dirais, qu'est-ce que ça nous dit sur les rapports de force internationaux ? Qu'est-ce que ça nous dit sur les modes de gouvernement ? Est-ce que nous n'avons plus l'empire, comme certains l'ont dit, il n'y avait plus de force impériale, mais est-ce qu'il n'y a pas là, je dirais, l'émergence d'une réalité, la découverte d'une réalité qui est qu'il y a encore des États alliés avec des entreprises très puissantes qui peuvent assurer des effets de domination et d'influence tout à fait considérables. J'ai passé sur quelque chose qui me paraît aussi tout à fait importante, qui est le lien entre révélé par Prisme entre les grandes entreprises et les États. Bon, mais je m'arrête là pour j'étais déjà beaucoup trop long pour puisse en parler.
Merci bien. Vous avez la parole.